Chapitre 3. Derrière sa porte, Nicole Ancel dut s'appuyer au mur de son couloir pour ne pas s'effondrer. Tant bien que mal, elle réussit à prendre son escalier et à rentrer dans son appartement. Elle revint à son fauteuil, s'y laissa choir et ne put se retenir d'éclater en des sanglots comme elle n'en a jamais plus versé. Ses pensées, si l'on peut dire ainsi ce qu'elle éprouvait, furent 100 fois plus confuses que pendant l'avant-dernière nuit. Il s'y mêlait en outre la nouvelle que Dagobert allait s'éteindre. Et c'était lui, ce Dagobert, vers lequel Charles Gibou avait fui pour entrer dans 10 années d'oubli. Mais comment et pourquoi Charles avait-il quitté le cabinet La Friche? Comment? Pourquoi? Le fol afflux des questions sans réponse fit que Nicole étouffait, s'épongeait les yeux, mal assise, se tournait, croisait et décroisait ses jambes. Ne pouvant rester en place, elle quitta son fauteuil pour arpenter son parquet sans oublier un coin de cet appartement qui lui sembla soudain une prison. Et de nouveau, mais pourquoi Dagobert avait-il envoyé cet homme précisément chez elle? Dagobert devait savoir quelque chose de lui et d'elle. Charles avait dû raconter à Dagobert tout son passé dans les détails les plus fins et les plus marquants. Cette histoire n'avait aucun sens. Il était évident que Nicole n'avait rien appris de cette fuite chez Dagobert. À cette époque de son adolescence, les petits faits divers de la ville ne l'effleuraient pas plus que les autres jeunes, sauf quelques-uns qui faisaient parfois des virées à vélo aux essarts. Elle ne savait rien de ce qui se passait là-bas. Des dames racontaient que c'était un lieu de perdition. Elle avait ignoré encore plus la déclaration que Madame Gibou avait faite au sujet de la disparition de son mari, des enquêtes faites au quartier des Nègres, des avis de recherche à travers toute la France, du divorce par défaut obtenu par Madame Juliette Gibou, d'une affaire momentanément classée, car la transformation d'un contribuable en homme libre énerve beaucoup les sentiments régaliens du fisc. Et en effet, seul Dagobert connaissait l'identité de Charles, qui vécut aux Essarts sous le pseudonyme d'Antoine Juvin, natif d'on ne savait ni quand ni quand ni où. Dagobert lui avait rafistolé une fausse carte d'identité avec un nom de famille de feu Monsieur Bounalès Juvin, ancien propriétaire des Essarts. Rarement Dagobert l'appelait Charles, plutôt Antoine, si c'était pour un travail précis, sinon fils. Mais Dagobert savait. Oui, il avait été renseigné sur les démêlés de Madame Gibou en écoutant toutes les conversations qui courent sous le manteau dans une petite ville de province. Pourtant, il avait gardé le malheureux, le silence d'un cénotaphe, protégé Charles parce qu'il aimait les malheureux, les hésitants, les gens perdus. Dagobert était un grand homme d'amour. Oui, Dagobert savait. Un jour de grande confidence entre vieux amis, pendant sa 2e année aux Essarts, Charles avait raconté ses ennuis. Entre autres, il avait dit à Dagobert cette incroyable aventure d'une jeune fille qui lui avait presque sauté au cou après s'être précipité en sortant du 51 rue des Lilas. Charles l'avait vaguement dépeinte à Dagobert, taille, cheveux, silhouette, l'avait montrée comme une espèce de jeune folle, qui lui avait pris sa sacoche après un chantage à la déclaration d'amour dont il avait été effrayé. Le drame avec Juliette, sa fuite, l'accueil merveilleux de Dagobert. On se doute que Dagobert, curieux comme un sapin joue, s'était mis en chasse, non pour rencontrer Juliette, qu'il avait parfois vu au marché, qui avait vendu la maison des Gibous puis quitté la ville, mais pour dénicher cette fille dont lui avait parlé Charles. Durant de fort nombreux mois, il mena une filature de romans policiers à la rue des Lilas, aux heures estimées pour les sorties des écoles, aux rentrées des jeunes chez leurs parents. Il finit par remarquer une fille grande et très belle, aux longs cheveux blonds, laquelle semblait bien habiter au 51. Elle avait le regard triste mais passionné, la tête penchée en avant pour une attention soutenue. Alors il entreprit une stratégie de chasseur africain. Il commença par monter un peu dans tous les étages, aux heures des repas, pour tenter de vendre ses légumes ou ses poulets. Il allait à tous les numéros afin de brouiller les pistes. Il travailla longtemps cette ruse pour se faire connaître, pour devenir un ambulant familier des immeubles rue des Lilas et surtout celui du 51. Il faillit désespérer, mais Dagobert avait pris une décision. Donc il installa de temps en temps sa petite charrette et son âne sur le trottoir d'en face et lentement repéra que vers les 5 heures du soir, les vendredis surtout, parfois les samedis ou les dimanches, à une fenêtre du 3e étage du 51, une grande et belle jeune fille soulevait ses rideaux et regardait dans la rue avec des apparences d'ennui. Elle dirigeait ses regards vers une extrémité de la rue ou vers l'autre. Il alla voir les noms des locataires du 3e, où il retint Chartier à sa gauche, Ancel à droite. Il suffirait maintenant de sonner, à condition que la jeune fille soit là, car à cette époque elle n'y était que les samedis et les dimanches, à cause de ses absences quand elle fréquentait la faculté. Un samedi matin, vers les 10h30, guettant derrière son âne, il vit entrer par le hall du 51 la demoiselle du 3e, recouvrit sa charrette, prit un panier à récolte, monta, sonna chez les Ancel. Une petite voix demanda qui c'était, et il répondit qu'il était Dagobert, le marchand de légumes. Nicole ouvrit car elle savait que sa mère avait quelquefois pris des bricoles au nègre du marché qui fait souvent le pied dans la rue. Elle regrettait que ses parents ne soient pas là, ne savait pas si sa mère devait acheter des choses pour le dîner ou le lendemain. « Ça fait rien du tout, mademoiselle, je repasserai. »« Oh, mademoiselle, » ajouta Dagobert. Vous êtes si jolie que vous devez avoir un bien joli prénom. Oh là là, je parie que vous vous appelez Delphine. Ah non, pas Delphine, comme vous êtes drôle. Alors attendez, Sandrine? Non, ni Sandrine ni Delphine. Non, non, je m'appelle... Non, 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 je devine, voyons. Carole? Ah non, pas Carole. Et Nicole éclata de rire. Ben, si c'est pas Carole, je sais plus. Vous brûlez pourtant. Nicole? Oui, c'est Nicole. Oh là là, jolie Nicole, c'est bien. Vous voyez que vous avez un prénom aussi beau que vous. Oh, Dagobert s'est pas trompé. Bon, bien, je retourne à ma charrette. Adieu, mademoiselle. Au revoir, monsieur Dagobert. Il se fit plus rare dans le quartier, mais on ne s'en étonna pas trop. Comme il avait appris à connaître les Ancel, il les revit au marché, demanda régulièrement des nouvelles de leur fille, et suivit ainsi sa scolarité, ses succès. Il lui arriva de la voir, elle aussi, au marché, et lorsqu'elle obtint sa 4e année de pharmacie, Dagobert offrit à Nicole une statuette africaine. À chaque fois qu'elle était couronnée à un examen, il lui donnait un canard à cuire au four pour fêter avec ses parents sa belle réussite. Mais Dagobert, avec son entêtement, ne trahit jamais ses recherches d'une patience vaticane. Charles n'en sut rien, pas plus que Nicole, à laquelle il se serait bien gardé de parler. Il avait son projet, tout en se méfiant de lui-même. Il se savait capable de commettre une erreur par bonté d'âme, ou par sa vieillesse qui le poussait à vouloir faire le plus de bien possible avant de rejoindre Dieu, dont le jugement approchait. Pourtant, un jour de grande fatigue, il faillit tout gâter. Alors que Nicole venait d'installer sa pharmacie du Chapeau Rouge, Dagobert vint s'asseoir à l'officine pour demander à mademoiselle Nicole un remontant. Il se sentait décrépit, et la jeune femme se montra tellement attentionnée pour lui qu'il laissa couler des larmes et dit à Nicole « Oh, vous savez pas, mademoiselle Nicole, mais je crois bien que vous êtes ma fille, vous aussi. Oh là là, oui !»« Mais comment ça, votre fille, monsieur Dagobert ?»« Oh là là, oui, vous êtes bien ma fille, oh oui, vous aussi !» Oui, Dagobert, je la suis. Bien, mais pourquoi aussi? Oh là, oh, je crois cette fois que c'est un secret, mais enfin, je peux vous dire que vous prieriez bien à mon fils entre mes fils. Ah, oh, je vois, Dagobert, vous êtes très rusé. Vous voudriez me marier aux essarts pour que je reste près de vous, que je vous soigne et que je vous donne plein de bonbons au sésame. Mais, Dagobert, il faut bien que je m'occupe de ma pharmacie. J'ai fait des emprunts pour acheter tout ça. Si je ne travaille plus, qui les remboursera? Mais je crois que vous avez fait un beau rêve, Dagobert. Mais pour moi, ce ne serait pas bien, raisonnable. Et puis, je n'ai pas envie de partager un de vos fils avec ses autres femmes, car je crois savoir que vos fils ont plusieurs femmes, comme cela se fait en Afrique. Je n'ai pas la même religion, les mêmes habitudes, je sais pas, moi. Je suis sûr que vous me comprenez, oui. Oh là là, mademoiselle Nicole, je comprends très bien. Ben, c'est pas un fils noir que je dis. J'ai un fils tout blanc, eh oui. Il y a un peu plus de 9 ans que je l'ai adopté, il était si malheureux. Pauvre garçon, oh, si vous le connaissiez, il est si intelligent. Il est si beau et travailleur, oh, il sait tout faire à la maison. Et quand il compte, il se trompe jamais. Parce que les opérations, il sait bien les faire, parce que c'était son métier avant. Eh bien, je vais réfléchir, dit Nicole, tout en gentillesse avec un sourire désarmant. Dagobert, sentant qu'il en disait trop et risquait de lâcher son secret, se mit à rire à son tour, retrouva toute sa force pour lever son mètre 90 et s'en aller. Nicole n'attacha aucun sérieux à ces propos de Dagobert, qu'elle prit, cela va sans dire, pour une galéjade, comme il mettant en fer. Accablée soudain par cette arrivée de Charles et l'annonce que Dagobert se sentait mourir, Nicole hésita. Se rendre tout de suite aux essarts ne lui semblait pas sage. Dagobert était assez conscient pour faire venir un docteur. D'un autre côté, elle s'en voudrait longtemps si Dagobert mourait sans l'avoir revu, et comme il faisait prévenir, c'était par désir de lui parler avant de s'envoler pour l'éternité. Mais sa réflexion fut interrompue. L'image de l'homme qu'elle savait bien maintenant être le Charles Gibou de jadis revenait toute fraîche à sa mémoire. Comment aussi se faisait-il qu'il ne l'ait pas reconnue, elle, alors qu'elle-même avait retrouvé dans ce visage son souvenir de jeunesse? Elle courut à sa fenêtre, regarda dans la rue. Rien. Elle prit son sac et ses clés de voiture, descendit à manquer toutes les marches, sauta dans sa voiture et partit dans la direction qu'avait dû prendre Charles Gibou. Elle rôda lentement dans toute la ville, cherchant à distinguer parmi les quelques piétons du dimanche un homme barbu, en costume de velours marron, assez grand, au pas calme et méthodique. Elle passa, repassa, se rendit à pied au jardin d'hiver, repartit en auto sur la nationale pour rejoindre le carrefour qui conduit aux Essarts. Toujours rien. Il se faisait tard. Elle alla jusqu'à se dire que si elle avait vu Charge marcher sur un trottoir, elle n'aurait pas osé s'arrêter, descendre, aborder l'homme et lui dire « Je sais que vous êtes Charles Gibou, moi je suis Nicolas Ancel. Vous vous rappelez cette jeune fille, sotte ou inconsciente, qui un soir devant le 51 de la rue des Lilas, je suis venu me mettre devant vous pour vous dire que je voulais m'enfuir avec vous. Oh, c'est vous qui avez fui. J'ai emporté votre sacoche noire, je l'ai fouillée. Ainsi j'ai su votre nom, mais je l'ai rapporté là où vous travailliez. Je ne vous ai jamais oublié. Pourquoi avez-vous disparu? Pourquoi ne m'avez-vous pas serré dans vos bras quand j'avais tant besoin de vous? Pourquoi ne pas m'avoir dit alors quelque chose de simple comme... Je ne vous aime pas, je suis marié, j'ai des enfants. Plus tard, mademoiselle, vous trouverez qui aimer, avec qui partager votre vie. Allons, rentrez vite chez vous. Mais c'est parce que vous avez fui que je vous aime encore, vous, Irénée, Lenoir ou Valentin, si vous préférez. Folle de déconvenue, de timidité, d'hésitation, d'incapacité de savoir quoi faire et comment s'y prendre, inquiète à l'idée que Dagobert mourrait peut-être à cette heure, rageuse, Nicole retourna chez elle, de nouveau au bord des larmes, rongée par sa passion, étrangement renouvelée comme un cancer aussi têtu que sournois. Elle se rejeta sur son fauteuil qui lui parut un havre pour sa misère intérieure, prisonnière d'un trou sans la moindre lumière, d'une cage à fauves où la puanteur de ses faiblesses la rendait malade et plus fragile. « Père, j'ai fait la commission, » dit Charles à Dagobert dès qu'il rentra aux Essarts. « C'est bien, mon fils, » dit Dagobert. Tu as bien vu mademoiselle Nicole, c'était bien elle, dis-moi. Mais oui, mon père, c'était bien la pharmacienne qui est venue vendredi soir. Oui, oui, je l'ai reconnue. Oh, fils, tu sais qui c'est, mademoiselle Nicole? Ben oui, c'est la pharmacienne, oui. Oui, mon fils, c'est la pharmacienne, tu as raison. Une pharmacienne, mais pas comme les autres. J'ai tellement cherché. Oh, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, il va falloir. Enfin, on verra. Charles fut interloqué par cette étrange remarque dans la bouche de Dagobert. Mais voyant que son vieil ami semblait vouloir s'assoupir un peu, il alla vaquer à ses affaires. On pourrait croire que les mots de Dagobert avaient fait revivre dans la mémoire de Charles le souvenir lointain de cette jeune fille qu'il avait reconnue sans vouloir se l'avouer. En réalité, Charles avait tellement enfoui son passé, avait acquis une telle peur de la femme, épouse, amante ou tout ce qu'on voudra, qu'il fut loin de se douter de ce que Dagobert trafiquait dans sa tendre cervelle. Il finit son dimanche en travaillant comme n'importe quel autre jour de la semaine, démaria des poireaux jusqu'à la tombée du soir, aiguisa deux houes, retailla un manche de râteau, dîna d'oignons frits et d'un verre de vin. Quand il alla dire bonsoir à Dagobert, le vieil homme dit à son fils entre ses fils que la mort ne lui faisait pas peur, mais qu'il avait souci, qu'il désirait pour Charles un bonheur paisible. Il ne devait pas s'attrister, car, depuis le haut du ciel, Le bon Dieu laisserait Dagobert veiller sur celui qu'il avait le plus aimé pendant ces dernières années. Charles, retenant à peine son émotion, partit pour ne pas la manifester devant Dagobert. Quand il fut couché, Bouli-Bouli vint pour le consoler, mais pour la première fois il la repoussa. Pourtant elle était bien fraîche et séduisante, Bouli-Bouli. Elle était toute belle et bien tournée, Bouli-Bouli. À Charles, elle avait déjà donné sa fleur, Bouli-Bouli. Nicole ne dormit pas une heure de la nuit. Dès le lundi matin, vers les 9 heures, elle se rendit aux Essarts. Elle était très émue à l'idée de bientôt revoir Dagobert, d'apprendre ce qu'il voulait d'elle et d'oser, mais oserait-elle, lui poser des questions sur ce Charles. Ce serait lui qui aborderait peut-être le sujet sans qu'elle ait à prendre le risque d'une indiscrétion. Pendant qu'elle roulait, elle ne vit rien d'autre que sa pensée confuse, embarrassée. Elle avait un nœud dans le ventre et sa bouche était sèche, amère, crispée. Très secouée dans sa voiture, elle se demanda si elle irait jusqu'au bout du chemin de terre, mais fit un effort qui lui parut au-dessus de ses forces pour longer les grands arbres, parcourir cette route qui ressemblait à une suite d'ornières à cause des nombreux cailloux ou nids de poules entre lesquels il fallait sinuer. Elle arriva lentement et arrêta sa voiture devant le très large perron en pierre de taille. Elle avait la gorge dans un étau et gravit les marches comme une vieille femme épuisée. Sa nouvelle nuit sans sommeil, bourrée de contes, de songes, d'angoisses, de problèmes insolubles et d'agitation, avait multiplié sa fatigue. Elle entra dans la grande pièce située à droite du couloir et retrouva la faune qu'il y avait vue le vendredi soir précédent. Au fond de la pièce, rendue sombre par les volets qu'on avait poussés, elle revit le lit en forme de baldaquin miséreux et dont les rideaux étaient assez ouverts pour qu'on pût y voir la forme allongée de Dagobert qu'on avait peut-être recouverte d'un linceul. Dagobert est mort ? S'écria Nicole, portant ses mains sur sa figure comme à la vue d'un spectacle affreux. « Non, madame, dit une jeune fille noire assise au pied du lit, non, il repose. Il a bien dormi cette nuit. Ah, c'est vous la pharmacienne. Il a dit ce matin que vous alliez venir le voir. Alors pourquoi cette mise en scène? Il ne manque plus que les bougies et le bénitier. Oh, n'ayez pas peur, dit la fille souriante. Nicole ne fut pas très rassurée, car l'ambiance des Essarts ne convenait guère à l'imaginaire exotique qu'elle s'en était faite auparavant. Elle remarqua que le torse de Dagobert faisait sous le drap les lents mouvements de la respiration. Elle s'approcha du nouveau et prétentieux grabat où Dagobert découvrit péniblement sa tête et se redressa pour s'appuyer sur un coude. À la fille au pied du lit, il ordonna d'aller faire du thé. Le rite, un peu de chaud, lui ferait aussi du bien. Dans la langue du pays, il dit ensuite à toutes les femmes et aux enfants de le laisser seul avec la demoiselle. Tout ce monde partit, Nicole prit un tabouret pour venir s'asseoir au chevet de Dagobert et fondit en larmes en prenant de sa main légère la lourde main de Dagobert. Oh non, mademoiselle Nicole, voilà que vous pleurez parce que votre ami Dagobert n'est pas très bien. Alors vous allez pleurer toute votre vie puisque vous travaillez avec des malades. Moi, je suis pas malade, je suis vieux. Et il faut m'en aller, c'est comme ça. Mais vous n'êtes pas aussi vieux que vous le dites, monsieur Dagobert. Vous êtes grand et fort. Il y a quelques jours, je vous ai vu soulever de pesants paquets. On s'affaiblit pas comme ça d'un coup. Et puis, vieux, oh, vous exagérez votre âge, j'en suis certaine. Oh là là, non, mademoiselle Nicole. Je suis du siècle dernier. Vous saviez pas que j'ai passé 87 ans. 87 ans, allons, monsieur Dagobert. Ben, je dis, j'allais bien, et puis l'autre matin, oh, j'ai vu le sang chez moi. Et c'est pas bon pour un vieil homme comme moi, c'est le signe de Dieu. Nicole restait silencieuse et stupéfaite d'apprendre que Dagobert avait 17 ans de plus que ce qu'elle avait cru. La fille apporta le thé à l'écorce de Mozibana et posa le plateau sur un guéridon à pied tenu par des ficelles. Dagobert invita Nicole à se servir d'abord, si elle aimait boire plus léger, car lui-même prenait son thé presque aussi noir que du café. Et le vieil homme se mit à raconter toute son enfance au village de sa tribu. Il avait appris le français et la religion avec des pères du Saint-Esprit, et il avait grandi dans le rêve perpétuel de quitter son tropique pour venir vivre dans cette France dont il voulait tout le temps que les prêtres lui parlent. Il connaissait mieux Paris qu'un Parisien et mieux la France que les Français. Il savait plein de chansons enfantines, d'autres patriotiques. Il savait les dates de Philippe Auguste, récitait du La Fontaine et riait à l'amitié de Candide et de Cacambo. Il s'indignait que les Allemands aient annexé l'Alsace-Lorraine et lisait « Dieu protège la France » sur les pièces de 100 sous. Car il avait su lire très tôt en apprenant son catéchisme. Nicole eut à écouter aussi tout le récit du premier mariage de Dagobert quand il avait 15 ans et que sa petite jeune femme en avait 12. Dagobert raconta combien il y avait de légendes qui disent que les vieilles de son pays vont recueillir de longues et savantes observations sur l'amour en observant les babouins. Nicole retint comme elle put des cris d'horreur. Et quand Dagobert ajouta force détails écœurants sur quelques pratiques à la primitive, elle crut qu'elle allait vomir tout ce qu'elle savait et commença à douter de l'utilité de sa présence aux Essarts. En plus, et devant des témoins, il avait dû poursuivre sa jeune épousée et la frapper à coups de baguette pendant que des vieilles placées en sentinelle à l'entrée de la case empêchait la gabine ainsi sacrifiée de pouvoir s'enfuir, car elle avait réussi par hasard à s'échapper des mains de ses tortionnaires. Nicole songeait avec effroi que des scènes de ce style avaient pu se dérouler ici, et le petit monde autour de Dagobert lui parut tout à coup inquiétant. L'estomac au bord des lèvres et les oreilles bourdonnantes, Nicole osa interrompre Dagobert pour qu'il parle de son arrivée en France. Elle tremblait à l'idée que Charles, vivant près de Dagobert depuis 10 ans, avait peut-être participé à ce genre de célébration avec des jouissances de sadique impénitent. Dagobert raconta sa venue en 1923, l'héritage qu'il avait fait des Essarts. Il avait rencontré en Afrique M. Bournalès Juvin, qu'il avait assisté jusqu'à sa mort, et qui lui avait dit de venir vivre en France aux Essarts, après lui avoir fait un testament pour le remercier de son grand cœur. C'était alors qu'il y arriva, flanqué de ses 3 femmes et de ses enfants, mais il n'avait pas fait grand-chose pour remettre en état cette grande maison trop grande, car il n'avait pas assez d'argent. Nicole devenait impatiente et ne croyait pas que c'était vraiment pour lui apprendre cela seul que Dagobert avait tant voulu l'avoir avant de mourir. Elle lui dit qu'elle allait devoir s'en aller bientôt, qu'elle avait du travail, mais qu'elle reviendrait avec des remontants et des tisanes. Dagobert lui dit de l'excuser, mais que les Noirs avaient la tradition de longtemps parler sous le baobab, qu'il n'y avait pas ici de ces gros arbres, mais que les Africains, surtout les très vieux, jacassaient comme les bancs d'Arlog quand aux Indes ils partent en voyage au plus épais de la jungle. Avant de mourir, cependant, il avait une mission importante qu'il devait confier à Mademoiselle Nicole, laquelle s'aperçut qu'on était enfin entré dans le vif du sujet. Ce fut la narration des rencontres avec Charles au marché, des malheurs de cet homme dont il eut une sorte de pitié, mais qu'il comprenait pour avoir souffert lui aussi des femmes. Cependant, il en était venu à bout par la méthode africaine, simple et efficace que l'on sait. Nicole opinait du bonnet, cachant soigneusement ses effrois intérieurs. Bref, dès l'arrivée d'un Charles égaré par la peur et l'angoisse, Dagobert l'avait adopté, protégé, compris, aimé. Il lui avait redonné le goût de rire et d'appliquer ses nerfs à des travaux utiles. Il avait aussi découvert que Charles était un homme très doux, agréable, très généreux, toujours au service des plus faibles. Grâce à Dagobert, il avait échappé aux poursuites de sa femme et de la justice sous la fausse identité d'Antoine Juvin. Le véritable Antoine Juvin était venu en Afrique travaillait avec son oncle par alliance. Il était mort en 1920, écrasé par la chute d'un Yangon qui n'était pas tombé dans la direction prévue sur le terrain d'abattage. Dagobert avait de ses photos, et comme le hasard faisait qu'il ressemblait beaucoup à Charles, il avait ainsi maquillé une carte d'identité qui trompa les enquêteurs. En plus, les noms de Juvin et de Bournal Juvin, fort connus ici, aidèrent à brouiller les pistes. Mais ce Charles, dit Nicole, qui sentait son cœur accélérer, ce fils dont vous me parlez, quel est son véritable nom? Hier, il m'a dit qu'il s'appelait Disparu. Bien sûr, je ne l'ai pas cru. Je pensais qu'il y avait là un secret et que vous alliez voulu me voir pour m'en parler, enfin, disons, pour me dire autre chose de plus que la narration de toute votre vie. Oh là là, oui, ma bonne mademoiselle Nicole, j'ai pour vous un grand secret. Charles, c'est pas Antoine Juvin, mort depuis bien longtemps. C'est Charles Gibou, dit-il en chuchotant. Nicole ne put répondre sur-le-champ. Voyant qu'elle allait tomber en syncope, machinalement, elle porta une main sous son sein gauche et pencha la tête en avant, s'appuyant au fragile guéridon. Après quelques secondes, elle éclata dans des sanglots qui secouèrent tout son corps. Elle ne sentit plus sa pensée et vacilla, mais réussit malgré tout à se reprendre. Elle n'était plus sûre, rêve ou réalité? Non, cette fois, ce n'était plus l'image ancienne retrouvée. C'était la vérité toute nue. Jeune, elle avait éprouvé pour cet homme un amour inexplicable et foudroyant. Elle l'avait perdu, attendu, espéré. Elle s'était noyée dans le travail et la réussite sociale par consolation rageuse, refusant tout autre sentiment. Et voici qu'elle apprenait que cet homme avait vécu là, à 3 pauvres kilomètres. Non, Dagobert, non, je ne vous crois pas. Ce n'est pas vrai. Pourquoi m'avoir laissé souffrir tant d'années? Dagobert s'excusa de n'avoir pas osé. Il ne voulait pas se mêler trop des affaires de Charles, qui lui en aurait peut-être voulu, et ne serait probablement enfui une nouvelle fois. Oui, c'était au moment où Charles lui avait parlé d'une jeune fille du 51 de la rue des Lilas que lui, Dagobert, avait fait toute cette comédie de vendre aux étages. Oui, il avait été très prudent pour approcher Nicole. C'était 2 ans après sa fuite. Charles se soulevait, venait de cette jeune fille qu'il avait tant troublée. Mais malheureux comme une antilope poursuivie, il avait failli serrer dans ses bras cette fille inconnue, si belle, la prendre par la main, l'emmener avec lui dans un coin retiré du monde, et reconstruire avec elle sa vie si délabrée, mécanique, imbécile, sans enfant et sans joie. Mais voilà, les habitudes, la routine, les ennuis, la police, une vie d'éternel fuyard aurait vite lassé cette fille trop belle, et qui s'était sûrement jeté vers lui par coup de tête, comme les jeunes en font trop. Que serait-il devenu? Où aurait-il abouti? Quand il était parti de chez lui, Charles Gibou avait bien vu que cette fille le poursuivait. Il s'était caché dans l'angle d'un garage, et quand elle était repartie du coin de rue où elle avait guetté, hésité, il avait pris le chemin du quartier du Nègre pour retrouver un homme avec lequel il pouvait avoir du réconfort. Il avait seulement dans l'idée de se rasséréner un peu, de faire le point avec Dagobert, de revenir chez lui, de changer sa vie avec Juliette. Et puis il était resté aussi étrangement qu'il était venu. Nicole, un peu calmée par ce récit, laissa s'échapper encore quelques larmes que Dagobert, très ému à son tour, essuya avec son mouchoir sale et aussi vieux que lui. « Je crois que vous l'aimez encore, mademoiselle Nicole. Oh, si vous saviez, monsieur Dagobert. Vous savez qu'il est devenu mon fils. Oui, Dagobert. Mais ce que vous savez pas, mademoiselle Nicole, c'est le reste de mon secret. Vous ne refuserez pas de l'apprendre, belle Nicole. Vous vous rappelez? Je croyais que vous vous appeliez Delphine. Eh ben, vous saviez pas pourquoi j'étais là, dans la rue des Lilas. Mon Dagobert, je n'arrive pas de pleurer. Vous allez me faire mourir de douleur. En même temps que vous, j'ai mal partout à découvrir tant de choses et que vous êtes capable de tant d'amour. Je commence à comprendre pourquoi vous êtes venu chaque semaine vous asseoir sur la petite chaise de la pharmacie dès les premiers temps quand j'ai ouvert. Mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit de cette époque? Pourquoi, Dagobert? Bon, je voulais vous connaître bien, vous êtes si joli aussi. Ça fait plaisir de se faire écouter par une jolie femme, ô Dagobert. Nicole apprit la suite du grand secret. Chaque année, à l'anniversaire de sa fuite, Charles Gibou venait près de Dagobert et lui disait « Père, croyez-vous que j'aurais dû partir avec la jeune fille dont je vous ai parlé? Elle était si belle dans les ombres du crépuscule. Les premières étoiles traversaient ses cheveux et je la sentais parfumée comme une nuit d'Afrique. Elle était la femme dont chaque jeune homme imagine la ferveur et la beauté. » N'en pouvant plus d'émotion, sous les chocs répétés de souvenirs tendres ou dramatiques, Nicole se leva brusquement de son tabouret. Elle prit son sac et chercha les clés de sa voiture qu'elle eut du mal à trouver. Dagobert se remit sur son coude. « Mademoiselle Nicole, j'ai une prière à vous faire quand je serai mort. Vous amènerez mon fils auprès de vous. Il ne faut pas qu'il reste ici. Vous vous marierez tous les deux, vous vous aimerez beaucoup et vous vous souviendrez ensemble de Dagobert, vous voulez ?» À tous ces mots simples et purs de Dagobert, Nicole fit un oui de la tête. Égarée par une inquiétude soudain plus envahissante, à laquelle se mêlait l'idée d'un éventuel bonheur retrouvé, elle ne pouvait plus parler. Elle se pencha vers Dagobert, baisa pieusement les mains glacées et le front du vieil homme à la barbe douce et blanche. Elle se détourna et partit. Le lendemain matin, Nicole fit une visite rapide à Dagobert qui lui sembla se porter plus mal. Elle pensa lui apporter des vitamines et des extraits de foie en ampoule. Mais craignant qu'on ne sût pas lui faire les piqûres de façon à respecter la plus élémentaire hygiène, elle n'avait pas apporté des seringues qui auraient pu servir à d'autres emplois prévus ni par la déontologie ni par la loi. Elle avait envisagé de faire venir le docteur Lebaudet. Cependant, il lui était devenu évident que Dagobert souhaitait mourir et que dans ces conditions, les prescriptions ne seraient pas suivies. Elle embrassa de nouveau Dagobert, sentant que par ce geste, elle lui faisait un éternel adieu. Il lui sourit, elle serra dans ses mains les mains toujours bien froides, essuya le front mouillé de transpiration et réussit à entendre ces quelques mots balbutiés. « Mademoiselle Nicole, tous les deux, Dagobert vous a bien aimé. » Nicole s'en alla dans le plus profond déchirement. Le soir de ce même jour, au moment où Nicole laissait partir sa préparatrice et fermait l'officine, un jeune noir à vélo arriva et dit sans ménagement que sa mère l'envoyait pour dire que Dagobert était mort à 3 heures. Voilà. Et le gamin repartit aussi vite qu'il était arrivé, parce qu'il était avec des copains. La nouvelle était attendue et Nicole avait eu assez d'émotions dans ces 4 derniers jours. Le problème nouveau était la situation de Charles. Il allait falloir le ramener des Essarts, s'il le voulait bien. En outre, sa fausse identité avait été protégée par Dagobert, mais les données se posaient tout autrement. Probablement, il quitterait la France si sa situation devenait intenable. Dagobert avait dit à Nicole de ne pas le laisser aux Essarts. Il avait sûrement ses raisons. Quant à son avenir propre, elle n'y songea pas dans cet instant. Il fallait aller vite. Elle essaya de téléphoner chez les Dignac pour demander un conseil, une idée. Personne ne décrocha. Ses parents, au fou, il faudrait des explications interminables de discutailleries, et ça finirait par des engueulades de sa mère, évidemment. Elle ôta sa blouse, prit rapidement son sac, enfila une bonne laine et monta dans sa voiture pour se rendre aux Essarts sans tarder. Dans la grande salle, il y avait tout le petit monde de Dagobert, du bruit, des conversations, des cris d'enfants, des pleurs sincères ou exagérés, des bougies un peu partout, des théières. On avait ouvert en grand les draps sales qui pendaient du faux baldaquin, mais le corps de Dagobert reposait sur un linge tout blanc. Son futur linceul le recouvrait jusqu'à mi-poitrine. On avait croisé ses bras comme pour les momies des pharaons, mais avec un chapelet entrelacé qui tenait ses poignets. Une branche d'if couvrait son abdomen et le haut de ses cuisses en symbole de l'arbre toujours vert. Contre la cloison de gauche, en entrant, Nicole avait tout de suite aperçu Charles appuyé, une jambe droite, l'autre pliée et son pied sur la plinthe, les mains dans son dos et appliquées au lambris. Il n'avait pas vu l'arrivée de Nicole tellement ses yeux étaient rivés sur Dagobert. On fit place à Mademoiselle Nicole, qui s'approcha de cette dépouille belle et noble dans sa fixité, Encore, semblant encore plus grand, plus impressionnant, plus majestueux au moment de préparer le retour à la terre. Lorsqu'elle se pencha vers le front de Dagobert pour lui donner un baiser d'adieu, il y eut un silence. Elle posa deux doigts de sa main droite sur la bouche de Dagobert et murmura « Votre bouche ne connaissait pas le mal, Dagobert. Elle n'a dit que des mots d'amour et de paix que je garde dans mon cœur. Et puis je suis si heureuse de vous avoir connu, monsieur Dagobert. » Nicole se détourna pour s'en aller. Les pleurs et les cris se mirent à fuser de nouveau. Elle se dirigea vers Charles, qui n'avait pas bougé mais baissait la tête, et s'arrêta devant lui à un pas. Il la regarda avec des yeux rougis et lui dit un bonjour neutre et poli. Il reconnaissait bien la pharmacienne, mais non la jeune fille de ce crépuscule ancien. D'ailleurs, il n'avait gardé de ce visage si troublant qu'un souvenir très flou, dessiné dans des ombres d'indigo et de mauve. Elle avait aussi des cheveux très longs, aujourd'hui arrivant à peine aux épaules. Ce n'était pas tout à fait la même taille non plus, et il ne se souvenait plus de son regard. En outre, ce souvenir à cet instant précis et dans cette circonstance était à 100 lieues de lui. Il ne se souvenait pas plus des mots mystérieux que Dagobert lui avait glissés dimanche soir. « Monsieur Juvin, dit Nicole à voix très basse, vous devez être au courant de ce que m'a dit monsieur Dagobert, que vous ne pourriez plus rester aux Essarts après sa mort et que je devais m'occuper de vous. » « Oui, enfin, souffla Charles. Dagobert avait assez peur, effectivement, qu'il m'arrive des ennuis. Quand il ne serait plus là, c'est pas très urgent et... » Monsieur Gibou, car Dagobert m'a confié votre nom, je crois que c'est... » Et voici que pour Nicole, le temps brusquement cessa de couler. Jadis, elle a déjà vécu ce phénomène très rare, qui ne se produit que dans la haine ou l'amour. Tout est fixe et les cris et les pleurs des autres entrent comme dans un trou noir de la relativité. Il n'y a plus en présence que deux infinis qui se touchent, se mêlent, se croisent, se repoussent et s'embrassent, éclatent et s'entrechoquent, implosent comme le noyau de fer d'une étoile qui s'effondre par une récréation fantastique. Nicole n'entend plus, ne voit plus, ne vit plus selon les sinusoïdes d'un cardiogramme. Elle est à côté du temps et de cet espace où elle croyait être l'instant d'avant. Si, pardon, elle arrive à distinguer vaguement qu'elle avance le long d'un ralenti de pellicule, image par image, et à chaque image elle est plus près de Charles. Par à coup, ses bras se lèvent et s'avancent aussi. Sa tête approche de l'épaule et tourne par moments saccadée. Elle va toucher le corps qui lui fait face. Sa jambe prend un mouvement mécanique si lent qu'elle n'en revoit pas les détails au cerveau. L'oreille gauche de Nicole sent la laine du pull rêche. Les bras de Nicole vont entourer, entourent, serrent, s'agrippent par derrière aux épaules d'Antonin Juvin. C'est alors que le temps qui était boiteux reprend ses pulsations. Charles crut que mademoiselle Nicole Ancel prenait souvent un appui sur lui par peur de ne pas tomber en syncope. Cela se produit parfois chez des personnes très sensibles ou fatiguées. Par sentiment d'amitié à l'égard de cette demoiselle, avec laquelle il avait en commun une grande affection pour Dagobert, Charles, à son tour, l'entoura de ses bras et lui tapota le dos affectueusement, comme pour la consoler d'une douleur bien compréhensible. On était en sympathie dans cette pénible épreuve, et l'on n'avait à se présenter ni des vœux ni des condoléances. Après, tous les drames pouvaient avoir des gestes de faiblesse. Antoine Juvin tient toujours Madeleine Ancel dans ses bras et s'apprête à lui dire des mots de consolation lorsqu'il entend assez clairement « Valentin Lenoir, non. Le temps ne s'arrête pas, mais Charles Gibou ne comprend pas ce nom pendant quelques secondes. Nicole sent la fixité de l'homme qu'elle sert toujours et qu'elle va être inquiète de la réaction. Alors les bras autour d'elle l'attirent au point de l'étouffer. Par-dessus les cheveux de Nicole, Charles dirige son regard vers le cadavre de ce Dagobert qui avait lentement, patiemment, méthodiquement combiné cette rencontre d'un vieil amour fou. Il avait gardé ça pour le jour de sa mort. Peut-être pour que Charles ne s'en aille pas d'auprès de lui avant la date qu'il aurait choisie. C'était donc vous, mademoiselle, la jeune fille de la rue des Lilas, dit-il sans desserrer ses bras. Oui, chuchota Nicole, oui, c'était moi. Vous seule connaissez Valentin Lenoir? Oui. Ils restèrent l'un dans les bras de l'autre, une minute, moins peut-être. L'assistance pouvait comprendre qu'on se rapproche ainsi dans la détresse, mais tous deux sentirent vaguement qu'il leur fallait se séparer pour ne pas devenir suspects dans une chambre mortuaire. Ils devaient déchirer cet embrassement pour lequel perpétuer et rattraper 10 ans de solitude. Nicole aurait donc bien des années de vie. Elle se dirigea vers la sortie, suivie de Charles, mais sans voir que l'amant retrouvé, enfin, se retournait vers un autre regard dans la salle et pour traduire un autre regret. Nicole installa Charles dans sa voiture. « Vous n'avez rien à emporter ?» dit-elle. « Je n'ai rien, mademoiselle. Quand je suis arrivé chez Dagobert, j'avais un manteau noir, un béret, mes autres vêtements. Mais vous pensez bien qu'ils ont péri depuis longtemps. » Pendant la route jusqu'à la rue du Cadran solaire, ni l'un ni l'autre ne trouva l'occasion de parler. On gara, on ferma la voiture, on franchit la porte de chêne. Nicole passa devant Charles en lui souriant et prit l'escalier la première. On entra, Nicole posa son sac. Comme on avait l'air idiot dans ce couloir et qu'on se souriait comme ça, sans savoir qui dirait quoi le premier. Avant que Charles se décide éventuellement, Nicole proposa de visiter l'appartement. Il fallait en connaître d'abord la salle de bain et les commodités, parce que c'est important. Et puis la cuisine, parce que ça compte aussi. Le bureau de Nicole, c'est là qu'elle travaille. Le salon salle à manger, où elle reçoit. Et puis sa chambre, bien sûr, ou son lit blanc, vient de recevoir un grand dessus en peau de loup du Canada. Il faudra aussi qu'elle donne un gant de toilette et une serviette éponge. Tout à l'heure, elle changera les draps de son lit qu'elle laissera pour son hôte. Elle dormira dans le salon sur un fauteuil confortable. Alors voilà. Et maintenant, on va prendre un dîner. Elle lui préparera ce qu'il voudra dans l'évidente limite de ses réserves. Pour Charles, manger dans la cuisine suffit bien, avec une échalote râpée dans des œufs poêlés. Il fait plus de manière. D'ailleurs, il a vécu longtemps à la diable, sans principe et sans style. Nicole se sent nerveuse. Certes, elle est avec l'homme de sa vie, mais un homme qui a vécu a priori sans femme pendant au moins 10 ans. Est-il de ceux que la longue privation rend brutaux? Il sait qu'elle l'aime et par conséquent, il doit se dire qu'il peut la prendre pour la posséder sans attendre, sans savoir qu'elle est vierge. D'ailleurs, il a déjà tombé la veste, il a ri, il a découvert ses dents en se frottant les mains. Présage redoutable. Comment une vierge peut-elle jouer le temps pour faire digression? Dans la cuisine, Nicole est d'un côté de la table, Charles de l'autre. Si Charles contourne le plat, si elle se sent paralysée sans défense, oh, son compte est bon. Oh, il faut gagner de vitesse, c'est ça l'urgence. Et puis Charles rit encore et fait voir reluire ses canines. Allons, dit Nicole avec une voix peu sûre dans les articulations. Asseyez-vous, monsieur Gibou. Merci, mademoiselle. Vous ne voulez vraiment pas que nous allions dans la salle à manger, les odeurs. Mon Dieu, je veux bien, et je sens que cela vous ferait plaisir. Il a dit, mon Dieu. Oh, la sauce sera pour plus tard. Dans les approches, il sera moins rude qu'elle ne l'a redouté. Finalement, tout se passa comme il faut. On dîna sur une nappe toute propre. Charles roula des cigarettes et l'on parla de Dagobert. Tantôt l'on a ri, tantôt l'on a pleuré dans un ensemble rassurant. Charles était toujours bel homme, tout compte fait. Il garderait peut-être sa barbe. Nicole se sentait très belle, très jolie. Elle serait une épouse triomphante et magnifique. Une voix, une poitrine, des bras, des mains, des cheveux, des yeux. Les jambes, où il les avait probablement mesurées dans l'escalier. Parfois, l'image de son ancienne femme devait revenir à sa mémoire, mais ce souvenir ne tiendrait pas la comparaison. À 11 heures du soir, après le café, on respecta les limites de la bienséance. Nicole se leva, disant à Charles qu'elle allait changer les draps et lui préparer son lit. Il accepta, sous prétexte qu'il ne devait pas profiter des parfums de son hôtesse. Nicole fut troublée par cette attention cavalière, mais en même temps, soulagée qu'un homme, fût-il Valentin Lenoir, ne voulut pas trop vite partager ses secrets. C'était aussi le signe que ne venait pas encore pour elle l'heure du grand plongeon dans l'amour. Allait-elle enfin connaître la possession, pouvoir dire sa passion et la traduire dans la volupté? Elle débarrassa pendant que Charles occupait la salle de bain. La virginité de Nicole, longuement, amoureusement conservée dans l'attente passionnée d'une révélation profonde, terrible peut-être, douloureuse, attendait, accompagnée de palpitations. Charles sortit, alla dans la chambre de Nicole et enferma la porte. Nicole ne comprit pas. S'agissait-il d'un jeu de l'amour et du calcul? Elle prit la salle de bain à son tour, se déshabilla, tressaillit à chaque bruit ou mouvement qu'elle croyait entendre de porte ou parquet. Elle était nue. Allait-il arriver, furetant le moment propice? Allait-il tout à coup surgir, la saisir à la taille? La mordrait-il à l'épaule, comme les mâles sauvages maintiennent la femelle? Allait-il la forcer à se cambrer devant le lavabo? Allait-elle crier, sans pouvoir se débattre? La sentirait-elle la brûler dans sa propre chaleur? Allait-elle gémir lorsqu'il fouillerait son intimité et chercherait à dompter sa pudeur? Elle eut le temps de se laver, de se relaver, de se rebrosser les dents avec les tremblements de peur mêlés à ceux de l'impatience. Il ne venait pas. Elle passa lentement une chemise de nuit rose, plus excitante, très transparente et pleine de dentelles sous les seins, très décolletée. Peut-être la préférerait-il ainsi, dans les drapés d'un nylon provocateur. Peut-être serait-il alors plus doux, plus insinuant ou pervers. Quelle horreur! Un spasme la parcourut de bas en haut. Et sa bouche! Mon Dieu, car pendant le dîner, il regardait tout le temps ses lèvres. Il s'y fixait, s'y attachait. Il revenait toujours comme s'il en induisait la douceur. Et pour l'achever, il la posséderait de partout. Nicole retint un cri et se vit presque à garde dans son miroir. Avec précaution, elle sortit, alluma le couloir, et quand elle se dirigea vers le salon où elle allait entrer, Charles sortit de la chambre. Il avait un caleçon à fleurs, grand, beau, bien fait. Nicole se croisa les mains sur les seins manifestement pointés, trop révélée par les transparences, et prit la rigidité d'une vierge inquiète qui n'ose plus résister. Avait-il déjà... « Excusez-moi, mademoiselle, dit-il, je crois que j'ai oublié de me laver les dents. Auriez-vous par hasard une brosse à me prêter? Oh, je suis vraiment désolé. » « Mais bien sûr, monsieur Gibou, répondit-elle, surprise, près de défaillir sur le parquet du couloir et d'abandonner son corps au sacrifice suprême comme les martyrs au sein du Colisée. » Nicole précéda Charles, mit la lumière dans la salle de bain, se savait dessinée de dos dans les voiles drapés de sa chemise de nuit, trouva une brosse à dents, l'offrit en souriant. Charles remercia. Aussitôt, il commença ses ablutions. Nicole entra dans le salon sans allumer, laissa la porte entr'ouverte, s'enroula dans une couverture, se blottit sur son fauteuil et attendit. Charles sortit, éteignit d'abord la salle de bain, passa dans la lumière du couloir. « Bonne nuit, mademoiselle, et merci pour la brosse. »« Bonsoir, monsieur. Bonne nuit à vous aussi. » Charles éteignit la lumière du couloir, referma la porte de la chambre. Nicole l'entendit qui se couchait et le clic de la lampe de chevet. Elle se murmura « Après tout !» Il n'a pas tellement changé.